France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le territoire de Belfort est à l'honneur cette semaine dans les carnets et dans le jeu des 1000 euros. Tout petit département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Tout petit par sa superficie bien sûr, mais il est grand en termes d'initiative. Aujourd'hui, nous parlons d'un vélo électrique très léger fabriqué à Belfort et d'une ferme pionnière. La première exploitation maraîchère bio du département. Elle est en bio depuis les années 80 et a été reprise récemment par un jeune couple. L'agriculture biologique commence à sortir de la crise. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Toujours plus gros, toujours plus lourd, le marché des vélos électriques semble lancé dans une pente ascendante interminable. Et pourtant, même quand l'assistance électrique est la bienvenue, un vélo léger, c'est plus pratique. Voilà comment est née l'idée de Parcocycle, une toute jeune entreprise basée à Belfort. Bonjour Jean Mougenot.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Alors ce vélo Parcocycle, c'était un projet étudiant au départ. Mais il paraît que vous avez fait des études en automobile, il faut m'expliquer.
Oui, en fait j'ai fait des études d'ingénieur en conception mécanique et je me suis formé au sein du groupe Stellantis en alternance. Et c'est pendant cette alternance que j'ai bifurqué vers le vélo.
Pourquoi ? Avez-vous lâché la bagnole pour le vélo ?
Il n'y avait malheureusement pas d'avenir pour moi dans l'automobile. Il n'y avait plus de recrutement dans ma branche, donc il fallait que je change d'industrie. Et je voulais rester dans le transport. Pour moi, le vélo, c'est un gros enjeu pour aujourd'hui et demain. Donc, je me suis essayé au vélo. Et à l'origine, en fait, ce projet, enfin Parco, c'était un portfolio pour me former dans le vélo. Ça a un petit peu dégénéré, mais dans le bon sens.
Complètement dégénéré.
Et donc là, ouais, ça doit faire 5 ans maintenant, 2021, 4-5 ans. On a maintenant notre deuxième série là, qui vient de voir le jour.
Voilà, c'est une entreprise qui propose deux modèles de vélo pour l'instant. Votre ambition avec Parcocycle, c'est de proposer un vélo sans compromis. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, de ne pas avoir à choisir entre un vélo mécanique et un vélo électrique. Le vélo mécanique, c'est la liberté, c'est simple, on peut faire beaucoup de choses avec. Et l'électrique, sur le papier, c'est très bien aussi, parce que ça donne un petit coup de pouce. Enfin, ça peut nous aider quand on en a besoin. Parce que quand on a des grandes côtes sur son trajet, quand il faut tout le temps s'arrêter, si on ne grille pas tous les feux, c'est bien aussi d'avoir quelque chose pour redémarrer. Donc l'idée, c'est de trouver le parfait compromis.
Donc justement, comme je le disais tout à l'heure, un vélo qui ne soit pas trop lourd, pas trop encombrant, c'est ça que vous reprochez au vélo à assistance électrique ?
C'est ça. En fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était garder tous les atouts du vélo mécanique et avoir juste le petit coup de pouce de l'électrique. Garder la légèreté et la simplicité d'un vélo traditionnel et avoir un moteur qui nous aide au démarrage et dans les côtes. Et le reste du temps, le vélo, il est pensé vraiment pour rouler sans l'assistance.
Alors décrivons-le un petit peu ou décrivons-les puisqu'il y en a deux désormais. Qu'est-ce qui différencie votre vélo des autres ?
Eh bien, sur le papier, en dehors du poids et de la taille de la batterie qui est quand même beaucoup plus petite, c'est très proche. Et c'est là où c'est vraiment à l'usage où en fait le vélo il est vraiment pensé différemment. Et l'usage du coup ça se ressent. Là on voit nos clients, nous on a une batterie qui fait 180 Wh, ça parlera à ceux qui font des recherches pour acheter un vélo. Ça n'existe pas des batteries de 180.
Donc c'est une petite batterie.
C'est tout petit, mais malgré du coup la toute petite batterie, eh bien, on a des clients qui vont faire 50, 100 km parce que justement le vélo en fait il est pensé pour rouler sans l'assistance.
Donc c'est un vélo qui ressemble beaucoup plus à un vélo musculaire, comme on dit, qu'à un vélo électrique.
c'est marrant parce que sur les salons, beaucoup de personnes du coup, qui passent devant notre stand pensent que nos vélos sont mécaniques. Et du coup, ils nous demandent si on fait des vélos électriques. On leur dit, celui-ci est électrique, là. Donc,
Qu'est-ce que ça donne côté fabrication ? Quelle proportion de vos vélos sont fabriqués en France et à Belfort en particulier ?
Eh bien, la fabrication, c'est le deuxième pilier sur lequel on travaille. C'est notre deuxième fil rouge. Notre objectif, en fait, c'est de relancer la production des vélos en France et plus largement en Europe. Donc, depuis le début, on fabrique les cadres nous-mêmes à Belfort. Et donc, c'est toujours le cas là sur la deuxième série. Et on va bientôt faire les fourches. Et donc aujourd'hui, en achat brut matière première, il y a un petit peu plus de 50% qui provient d'Europe. En France, on a par exemple les jantes, les rayons, les garde-boue qui sont fabriqués sur le territoire. Et notre objectif, c'est plus vite possible avoir un vélo 100% européen et tout ce qu'on peut faire en France, le faire en France.
C'est un sacré défi de relocaliser.
C'est compliqué, mais c'est intéressant.
Qu'est-ce qui est compliqué en particulier ?
En fait, c'est tout un savoir-faire qu'on a perdu, toute une chaîne de valeur qui a disparu. Dans les années 80, à Belfort, juste à côté, il y a Mander, Montbéliard, c'était Peugeot Cycle, c'était le premier fabricant de vélos mondial. En 1980, ils avaient fait un petit peu plus, je crois, de 900 000 vélos en un an. Ils visaient presque tout. Et si on regarde ces vélos, bah, tous les composants étaient fabriqués en France. Et aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien de tout. Enfin, il y a très peu de choses. Là, on a réussi à trouver des gens des garde-boue. Mais des cadres, par exemple, en dehors des artisans, il y a très, très peu de monde. Ça revient difficilement, la fabrication.
Vous avez l'impression un peu d'être un archéologue, d'aller chercher les savoir-faire qu'on a perdus pour les réimplanter chez nous ?
Oui, exactement. Bah, c'est ce qu'on a fait du coup sur le, au tout début, pour le premier prototype justement. Traditionnellement, un cadre aujourd'hui, c'est soudé. Donc moi, je m'étais renseigné sur comment souder un cadre. J'étais allé voir les professeurs du coup de mon école pour réserver les ateliers et puis faire un cadre soudé. Ils m'ont dit que ça marcherait pas. Enfin, j'avais pas les talents pour. Enfin, ça s'apprend, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Ils avaient les moyens, mais j'avais pas le temps. Ils avaient pas envie que je passe un mois là-bas à apprendre à souder. Donc, ils m'ont dit de chercher autre chose. Et j'ai retrouvé un autre procédé qui se fait plus trop aujourd'hui. C'est de l'emmancher collé. Donc, c'est un cadre aluminium, mais sans soudure.
Ça vous plaît, ça, j'ai l'impression, d'enquêter pour retrouver les savoir-faire d'antan.
Ouais. C'est le challenge. Challenge industriel, c'est super intéressant.
Vous vendez vos vélos Parcocycle à Paris et à Strasbourg, aussi sur votre site internet en direct. Le modèle Parco 05 coûte 1600 euros. On est dans les prix du marché ?
Oui, mais en fait, le tout premier modèle, du coup, 05, ça fait 2 ans qu'on le fabrique. C'est le 05, mais c'est le premier qu'on a commercialisé.
Il y a eu 4 Il s'appelle 05, juste par esprit de contradiction ou quoi?
C'est ça. Non, parce qu'il y avait le 04 avant, le 03, mais ceux-là, ils n'ont pas été vendus, c'était mes protos.
Prototype, d'accord.
Ouais, c'est ça. Et donc, ce premier modèle, il a 1600 euros. En fait, on voulait vraiment se mettre même en dessous du marché. Enfin, du coup, en 2023, le prix moyen d'un vélo, c'était un peu plus de 1000 euros. Pour prouver qu'on était capable de refaire des choses en France sans que ce soit hors de prix. Notre créneau, c'est on veut faire la deux chevaux du vélo, donc c'est du bon sens en fait, et aussi du bon sens dans la fabrication. Donc ce qu'on peut le faire sans que ce soit trop hors de prix, on le fait.
Qu'est-ce qui vous rend fier, Jean Mougenot ?
Eh ben d'avoir déjà nos un peu plus de 500 premiers vélos, là des 0,5, qui roulent depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On a des clients qui ont passé la barre des 10 000 km, donc ça c'est génial. On a des super retours. Et là maintenant, la nouvelle série, là les 006, et on est très content de ces premiers vélos. Là, on a livré les 20 premiers. D'ici la fin du mois, on aura livré les 50 premiers.
Aucun regret d'avoir lâché l'automobile, alors ?
Non. Non. Ok.
Parcocycle, c'est à Belfort. Merci beaucoup, Jean Mougenot.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Après 4 années d'une crise sans précédent, l'agriculture biologique semble reprendre du poil de la bête. Mais le secteur reste largement minoritaire. Seulement 10% des surfaces agricoles en France sont bio. Je donne aujourd'hui la parole à une paysanne bio qui travaille dans une exploitation pionnière, la toute première ferme maraîchère bio du territoire de Belfort. C'était en 1989. Le biopotager. Bonjour Justine Martin.
Bonjour Dorothée.
Vous avez repris cette ferme l'an dernier avec votre compagnon. Le biopotager s'écrit B-I-A-U. C'est un mélange de beau et de bio. C'est un symbole important pour vous de travailler dans cette ferme-là en particulier ?
Oui, je suis d'ailleurs assez émue de vous parler. Donc moi, je connais la ferme depuis très longtemps parce que mes parents étaient clients depuis les premiers jours, je pense. Mais moi, j'ai longtemps cherché ma voie et donc en 2020, après le premier confinement, j'ai eu la grande chance de faire ma première saison ici et de rencontrer Denis, Christophe, Loïc, Estelle, Nathalie, Nadine, et vraiment d'avoir un énorme coup de cœur pour le métier et puis pour les gens qui travaillent ici.
Vous cultivez des légumes et des fruits sur environ 10 hectares dans le village de Rep, on est à l'est de Belfort. Quel sens mettez-vous dans ce label, Justine ? Pourquoi travaillez-vous en bio ?
Parce que je ne me verrais pas travailler autrement, déjà. J'ai toujours cherché un métier qui ait du sens pour les hommes et la planète. Je le dis très très souvent, c'est un peu ma philosophie. Et voilà, l'agriculture bio, c'est quand même un cahier des charges important qui nous permet de garantir certaines pratiques. Oui, il y a des aspects, par exemple, qu'on a en bio qui n'y a pas en conventionnel, notamment beaucoup d'heures de désherbage. Et c'est aussi quelque chose qui me plaît et je ne ferais pas autrement, en fait.
Je le disais, le secteur a traversé des années difficiles. Comment votre ferme a-t-elle vécu cette crise, Justine ?
J'ai pas trop le recul parce que moi je suis là que depuis 2020. On a quand même une clientèle très très fidèle, hein, de très longue date, on va dire. Donc voilà, ça fluctue. Il y a eu un énorme engouement au moment du Covid. Après, ça s'est essoufflé. Mais globalement, les gens restent là. Les gens nous soutiennent et nous suivent. Et je peux dire que pour notre part, on est quand même très chanceux à ce niveau-là et assez résilient dans les champs comme au niveau du commerce. Quoi.
Oui, la solidité de votre ferme est sans doute liée à la vente directe. Hein. Vous vendez vos productions sur les marchés et on peut aussi s'abonner à des paniers chez vous.
Oui, vous avez raison. Donc, on a 95% des ventes qui sont aux particuliers. On est essentiellement sur les marchés de plein vent et puis les marchés aussi intérieurs. On a un magasin à la ferme. Et effectivement, le système de panier, voilà, il est un petit peu saturé en ce moment. Il est un peu victime de son succès, mais oui.
C'est pas mal, non ? D'être victime de son succès.
Moi, je veux pas être trop prétentieuse, mais voilà, on a beaucoup de chance.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ceux et celles qui se seraient détournés du bio ou qui n'ont jamais été convaincus d'ailleurs?
Si on veut vraiment protéger la planète, c'est protéger notre santé, protéger nos sols, protéger l'eau, protéger la biodiversité. Pour moi, c'est la seule voie possible, en fait. On voit souvent le coût financier à la caisse, hein, en euros, mais il faut aussi réfléchir à combien ça peut coûter de, par exemple, assainir l'eau, combien ça peut coûter à la santé publique d'utiliser, par exemple, des produits, des pesticides, d'insecticides, etc. Donc moi, si je peux vraiment encourager tout le monde à veiller au bien-être de la planète, voilà.
Je le disais, ça concerne seulement 10% des surfaces agricoles françaises, hein, le bio aujourd'hui. C'est très peu. C'est aussi parce que c'est plutôt difficile d'être paysan bio aujourd'hui.
Mais oui, il y a beaucoup plus de challenges techniquement parlant. Le fait qu'on n'utilise pas de produits chimiques, ça veut dire qu'on a des rendements un peu moins importants, déjà. Ensuite, comme je vous le disais, les temps de désherbage sont conséquents, donc c'est des charges en main-d'œuvre absolument considérables. On doit trouver des solutions pour faire face aux maladies, aux ravageurs aussi, aux changements climatiques. Des solutions sans produits de synthèse, en fait.
Quel est le geste ou l'activité qui vous plaît le plus dans votre métier au quotidien?
Moi, j'aime beaucoup récolter. C'est vraiment le fruit du travail, parce que c'est vrai qu'on on a les semis, l'implantation, l'entretien des cultures, ça me plaît aussi énormément. Désherber, tuteurer, tailler, mais ouais, récolter, c'est quand même le Saint Graal, quoi.
Récolter quoi en particulier?
Moi, j'aime tout. Il y a rien qui me déplaise. Après, moi, j'ai un petit faible pour le mesclun qu'on fait le vendredi. Donc, c'est plutôt une salade mélangée avec plein de salades différentes et d'herbes aromatiques et de fleurs quand c'est la saison. Donc, ça, j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup les herbes aromatiques également. Et oui, bon, après, tout me plaît. Hein.
Et en décembre, il y a du boulot quand même, hein, à la ferme.
Oui, on s'ennuie pas. Donc nous, on a une équipe de saisonniers qui vient nous aider d'avril à novembre. En décembre, on n'a plus de saisonniers avec nous, donc on se retrouve seul. Donc forcément, il faut faire face à la charge de travail. Et on cultive sous serre, sous tunnel, même en hiver. Donc il y a encore des récoltes longues sous tunnel, notamment la mâche, ça prend pas mal de temps. Et puis, on a des stocks de légumes de conservation, donc pommes de terre, courges, racines, choux. Donc, ces légumes, on va les trier, les nettoyer tout au long de l'hiver. Donc, ça nous occupe également. Sans parler de tout le retard qu'on a accumulé pendant la saison et donc des to-do listes interminables de choses qu'on peut faire quand c'est un peu plus calme.
Dans la joie, tout ça, ça s'entend.
Oui, il faut, c'est important. Et c'est beau d'aimer son métier quand on y passe autant de temps aussi. Ouais.
Le biopotager, c'est donc à Rep, dans le territoire de Belfort. Merci beaucoup, Justine Martin.
Merci à vous, Dorothée.
À bientôt, bonne journée.
Au revoir.